les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Les deux amis se prenaient au sérieux, fussent avec un regard ironique. Ils se prenaient pour de petits dieux. Ils allaient refaire le monde, ils avaient réponse à tout, des leçons à donner à la classe ouvrière, avec une parole juste, comment ne pas réussir la révolution en France. Une amitié, un destin, une aventure avec Michel, lequel Michel allait se suicider, mourir à 30 ans. En raccourci, une histoire de pouvoir saisissante sur la politique, le militantisme d'une époque. Histoire de deux copains, et dans le milieu du militantisme, il ne fallait pas être copain, on devait se méfier en permanence. Cette histoire, ce dialogue entre comédie et tragédie, donna un film, Mourir à 30 ans. Le 11 juillet 1982, quelques semaines après la sortie du film, Caméra d'or au Festival de Cannes, Claude Jean-Philippe, en compagnie de Pierre Donadieu, recevait son réalisateur, Romain Goupil, et sa monteuse, Françoise Prenant, dans l'émission « Le cinéma des cinéastes ».
Ce ne sont pas ceux qui s'occupent de l'art, art poétique ou bien musique. Les artistes sont les acteurs, les actrices. Si nous étions des artistes, nous ne dirions pas le cinéma, nous dirions le ciné. Mais si nous étions de vieux professeurs de province, nous ne dirions ni ciné ni cinéma, mais cinématographe. Aussi, mon Dieu, faut-il avoir du goût.
Le cinéma des cinéastes est décidément bien en retard, parfois, pour dire son intérêt pour des films qui sortent. C'est arrivé pour Les Fantômes du Chapelier, dont nous avons parlé un peu tard. C'est encore plus vrai aujourd'hui, mais enfin j'espère que le film étant de toute façon encore à l'affiche et ayant, je pense, un assez bon succès, en tout cas un assez bon accueil, cette émission, j'espère, ne pourra que vous convaincre les hésitants ou les réticents à aller voir le film qui s'intitule « Mourir à 30 ans », qui est un film de Romain Goupy, qui se trouve actuellement avec nous dans ce studio, en compagnie de Françoise Prenant, qui est la monteuse du film, et je pense la collaboratrice directe de Romain Goupy pour Mourir à 30 ans. Alors, pourquoi avons-nous mis du temps à voir ce film? Probablement par peur du sujet. Par peur, d'abord, du récit d'un suicide de quelqu'un qui n'est pas un personnage de fiction et qui s'est bel et bien tué, en 78. Et d'autre part, parce qu'il s'agissait de 68 par quelqu'un qui avait vécu 68 et on se demandait s'il n'y avait pas à voir quelque chose du genre ancien combattant, amertume, mélancolie, regret, enfin toute chose qui pouvait faire apparaître de la complaisance. Alors, je le dis tout net, Mourir à 30 ans est un film qui est tout sauf complaisant. Alors, Romain Goupy, j'ai envie d'abord de vous demander si vous avez ressenti, au moment de la décision de le faire, tous les pièges et tous les risques du sujet, c'est-à-dire du double sujet, à la fois le suicide de votre ami et d'autre part la nécessité de revenir sur ces années et sur...
Oui, il y avait au début un sentiment un petit peu de... que j'abordais quelque chose d'un peu sacré, d'un peu bon, dont on ne parlait plus, qui était une époque révolue, dont on voulait oublier un petit peu les éléments, et principalement parce que c'était une période rude. La façon dont le film s'est décidé, c'est à la suite du suicide, de la disparition de cet ami qui est Michel Recanati, et donc c'était assez rude de revenir sur cette période, mais d'un autre côté, c'était le seul moyen de le retrouver pour moi, de re-raconter notre histoire à tous les deux, et donc forcément de reparler de cette période. Après, il s'est passé un phénomène bizarre pendant le premier temps du film, qui a été de rassembler tous les documents, de regarder un petit peu toutes les images, de voir le matériel. Le problème avec le film, quand on a regardé donc les premiers documents, c'était un truc très très gênant. Je suis arrivé devant le film sans plan, sans construction, sans a priori, un petit peu en faisant le pari avec Françou. C'est un petit peu pour ça que je l'ai contactée, que j'ai discuté avec elle. Je lui ai demandé si c'était possible qu'on travaille ensemble sans qu'on ait de date précise de fin de l'histoire, qu'on voit les documents ensemble, qu'elle soit un petit peu au même niveau que moi par rapport à ce film, par rapport aux documents, et qu'on se donne les 6 mois, les 8 mois, les 2 mois pour faire cette histoire, pour raconter cette histoire.
Bon, alors justement, vous parlez des documents. Alors c'est tout de même la chose la plus extraordinaire, en même temps la plus révélatrice du temps où nous vivons, c'est que vous n'avez à aucun moment éprouvé le besoin de faire jouer des personnages par d'autres. C'est-à-dire qu'on vous voit, il y a des documents qui datent depuis de quel âge? Alors, c'est étonnant.
C'est les premiers documents datent de 63-64.
Vous avez quel âge?
Donc, c'est une période où j'ai 12 ans, 13 ans, donc les premiers moments de cinéma où on commençait à tourner en 8 mm. C'est le tout début, là.
Bon, alors, c'est des films que vous aviez fait, vous. Alors, rappelons tout de même, on le sait, mais tout le monde n'est pas obligé de le savoir, que votre père est un opérateur de prise de vue célèbre, mm-hmm. que, de ce fait, vous avez, avec la prise de vue, un rapport quasiment familial, ce qui vous a permis de filmer très vite, d'être filmé par lui aussi.
C'est ça, c'est-à-dire qu'il y a eu le premier temps où cet univers familial a donné envie, comme, je sais pas, de prendre un crayon, une plume ou un pinceau. Là, c'était une caméra, c'était automatique, on se posait même pas la question. C'était de raconter des histoires, et nos maîtres à l'époque, c'était Charlie Chaplin, Buster Keaton, donc raconter des petites histoires à leur manière, des histoires, des films muets, parce qu'on n'avait aucune capacité pour utiliser les magnétos ou le cinéma synchrone. C'était donc avec l'image, avec ces petites caméras, se raconter des histoires pour nous, c'est des choses qu'on montrait à personne, c'est-à-dire que c'était le plaisir du tournage. On regardait même pas les projections des films qu'on tournait, c'était vraiment le plaisir de se déguiser, le plaisir de s'amuser, le plaisir de tourner.
Et vous regardiez même pas ce que vous faisiez?
On n'avait pas de projecteur, on n'avait pas les moyens de s'acheter un projecteur, on avait seulement tout notre argent et nos économies passaient dans l'achat de la pellicule, et donc on a tourné tous ces petits films sans quasiment jamais les regarder. On regardait à la main comme ça, ou dans une toute petite visionneuse à la main, mais on n'a jamais regardé sur un écran. Donc ça a été une double surprise et un enchantement presque de revoir tous ses copains et toute cette bande, qui est la bande des Coyotes dont je parle au début du film, avec ces petits films, et en regardant ces petits films qu'on a commencé à construire le film.
Alors, ça, ces petits films, vous ne les aviez pas vus depuis l'époque?
Je ne les ai pas vus, et en plus, eux, je ne les avais pas vus du tout. C'est-à-dire, les acteurs, ceux qui sont déguisés, ceux avec qui on faisait tous ces gags, on racontait toutes ces histoires, personne ne les avait vus. À l'époque, on avait besoin d'une figurante, c'était la frangine de l'un, la sœur de l'autre, les parents de l'un, les parents de l'autre, pour faire les personnages autour dont on avait besoin. Et tout d'un coup, je me suis aperçu, en regardant ça 10, 15 ans plus tard, que c'était une histoire incroyable de toute la bande à travers des fictions, des petites fictions, des petits sketchs, des petites histoires. Donc ça me permettait de raconter toute la période 1960-65, c'est-à-dire avant que je m'intéresse à la politique, c'est-à-dire avant que d'autres sons, d'autres images s'imposent à moi, qu'ont été le Vietnam, le Napalm, l'invasion du Vietnam par les Américains, qui a été ma première prise de conscience politique parce que j'étais au lycée. Et là, j'ai commencé à rencontrer d'autres copains, d'autres gens, et j'ai changé un petit peu de milieu. Enfin, disons que j'ai rompu un petit peu avec mes copains, avec tout ce qui faisait la bande des Coyotes et le cinéma du début, ces petits films.
Bon, alors donc, je vous pose une question, Romain Goupy, parce que c'est la question que je me suis posée. Est-ce que, ne disposant pas de ces petits films et de ceux qui vont suivre, dont on va parler tout à l'heure, est-ce que vous auriez fait le film ?
Oui, tout à fait. C'est-à-dire que j'avais pensé au début que c'était des choses trop personnelles, que c'était très difficile de raconter, que ça allait apparaître trop comme des films d'amateurs, trop comme des films intimes, c'est-à-dire qui étaient sur la famille et tout, et que jamais, au grand jamais, ça pourrait passer ou ça pourrait être utilisé. Donc j'avais pensé plutôt raconter cette période qui était la période avant le militantisme et plus m'intéresser à partir du moment où j'ai rencontré Michel, c'est-à-dire oublier un petit peu cette période avant et seulement raconter notre rencontre avec Michel, la façon dont on a commencé à militer ensemble et tout. Après, je me suis aperçu que c'était très important pour l'histoire, c'est-à-dire même par rapport à nos caractères, à la différence de nos caractères, à la différence de notre histoire, de raconter un petit peu c'est la façon dont je m'étais abrité en permanence derrière la caméra, dont je m'étais caché derrière la caméra pendant tous ces événements, où lui, à la différence de moi qui était abrité, donc qui me mettait derrière le ton, lui, il l'a vécu complètement intégré à ce qui se passait, aux événements politiques, puisqu'il était responsable très tôt du travail lycéen, puis après, il était intégré aux organes de direction qui sont le bureau politique, le comité central, chose que moi, j'ai toujours refusé, et je me suis toujours abrité, justement, derrière cette caméra, pour éviter ses responsabilités.
Oui, on voit très bien. D'ailleurs, c'est pour ce qui est d'ailleurs du cinéma lui-même, Mourir à 30 ans est un film tout à fait exemplaire parce que on voit bien à quel point le fait d'être derrière la caméra vous dégage beaucoup plus fondamentalement que. Ce qui ne veut pas dire du tout qu'on soit indifférent à ce qui se passe.
Non, pas du tout, mais ça rend un petit peu ce qu'on filme et ce que je voyais comme événement filmé. Tout d'un coup, ça devenait des acteurs, forcément, voilà. Puisqu'ils étaient sur la pellicule, ils étaient sur l'image. Tout d'un coup, les manifestations ou les choses les plus violentes même qui pouvaient se passer ou les choses les plus sérieuses qui sont les meetings, les discours, le fait de les filmer, tout d'un coup, ça mettait tout le monde à plat, mais vraiment là, au sens propre du terme, c'est-à-dire qu'on les voyait sur l'écran et ça prenait un peu moins d'importance, ça devenait, même par la manipulation après au montage de l'image et du son, on se disait, ça je parle des films militants, c'est toujours la même chose, c'est toujours le même discours, c'est toujours les mêmes images, et du coup ça relativisait un petit peu tout ce qui se passait, tous les événements, et on les prenait un peu moins à cœur, un peu moins sérieusement peut-être que ceux qui étaient à l'intérieur.
Alors un peu moins sérieusement, puisqu'on est au cœur de la question, c'est toute la force de Fantine, parce que le film ne le dit pas d'une certaine façon, le film étant à la première personne, dit simplement ce qui se passe. Ce qui frappe complètement, c'est que on raisonne toujours en termes d'engagement ou de désengagement, en termes d'enthousiasme ou d'indifférence, en termes de prise de parti, de fidélité ou de trahison. Or, aucune de ces contradictions ne joue dans votre film. Ce qui est en jeu, c'est beaucoup plus fondamental, parce que c'est que la sincérité certainement du côté de Michel Recanati et de vos amis, mais la justesse, il me semble qu'elle est du côté de celui qui filme.
La façon dont j'ai filmé, dont le film est monté, il y a un regard quand même critique sur toute cette période, puisque j'ai changé. Je ne milite plus, j'ai arrêté de militer dans les années 73-74, à peu près en même temps que Michel. Et donc, depuis, il y a eu tout un chemin que j'ai fait par rapport à cette période. Et le regard que j'ai maintenant comme cinéaste par rapport à tous ces documents, à tous ces événements, à tout ce que j'ai pu vivre, il y a donc un regard différent maintenant, qui est presque 10 ans après, puisqu'on est en 82, 10 ans après, je regarde tous ces événements, je regarde notre amitié, la façon dont on est resté, notre destin, enfin notre aventure avec Michel pendant 10 ans, et donc j'ai un regard différent d'à l'époque où je le vivais. Et c'est forcément, c'est ce discours qui passe dans le film, c'est 10 ans plus tard, comment on fonctionnait. Maintenant, dans la façon dont je fais le commentaire, dont j'explique cette période, je renie pas ce qui s'est passé.
Non, pas du tout.
À aucun moment, parce que pour la simple et bonne raison, c'est que maintenant, en 82, je suis toujours d'accord fondamentalement avec tout ce qui fait ma révolte, tout ce qui a alimenté ma révolte quand j'étais môme, c'est-à-dire la lutte contre l'injustice, contre les tortures, contre la faim, contre la guerre. C'est des choses qui me sont toujours, qui me semblent toujours justes. Mais je dis simplement, je me suis trompé sur les méthodes, je me suis trompé sur les moyens, et regardez ce que ça a pu entraîner, la façon dont on s'est enfermé dans ce travail militant, dans cette organisation militante, comment on a été broyé, quand même nous-mêmes on s'est abîmé au point que mon meilleur copain et je cite d'autres noms au début du film, je ne fais pas une comptabilité morbide de tous les suicides que j'ai pu connaître, mais des gens qui m'étaient très proches, des gens qui étaient très, qui étaient des intimes, qui étaient des gens qui étaient autour de moi. Il y a les trois personnes du début du film qui sont mortes, qui sont suicidées, et Michel Recanati qui est aussi suicidé. Par rapport à des croyances, par rapport à aux illusions qu'on pouvait avoir, c'est quand même un bilan très, très dramatique. Donc, c'est un petit peu le regard que j'ai maintenant qui fait que...
Bon, alors, justement, vous dites le regard que j'ai maintenant, mais vous avez tout de suite parlé de François, c'est-à-dire de Françoise Prenant. C'est vous, finalement, qui, en regardant les documents, que vous ne connaissiez pas ?
Moi, j'en connaissais une partie. Enfin, je connaissais toute la partie des documents qui sont plus ou moins publics, c'est-à-dire tous les documents politiques, tout ça.
C'est-à-dire, oui, les manifestations
de mai 68. Tous les documents d'à partir de... qui date de 68 à nos jours.
C'est-à-dire les réunions politiques, par exemple le document où Michel Recanati demande le silence aux anarchistes qui
le... Ah non, mais ça c'est un document de fiction justement. Tout ce qui n'était pas de fiction, tout ce qui était reportage sur les événements politiques, je les connaissais. Les trucs de fiction, c'était des trucs à Romain, je les avais jamais vus.
Oui, vous dites bien les trucs de, le truc de fiction. Bon, alors, vous avez donc découvert les documents anciens, ceux de Romain, enfant, puisque c'est vraiment un enfant. C'est tout à fait étonnant de le voir grandir à travers le film. Et bon, alors, c'est votre regard à vous, ça a été quoi là-dessus ? Ça a été quel genre de regard ?
Plus précisément, je sais pas. On a regardé ça ensemble. Enfin, on a construit les choses petit à petit, tous les deux.
Non, mais il y a eu un accord tacite au départ. Françou, je la connaissais d'avant. C'était quelqu'un que je connaissais comme militante même. Elle a rompu très très rapidement avec le militantisme alors que moi je continuais. Donc il y a eu un rapport comme ça après, quand j'étais môme, de dualité avec Françou. Elle n'était pas d'accord sur comment je fonctionnais, sur ce que je faisais. À partir du moment où j'ai rompu et que je n'ai plus été militant, on a été amené à se voir, à devenir amis, à discuter et à discuter de cette période. Et je me suis dit, pour le film, pour Mourir à 30 ans, le regard critique de Françou par rapport à toute cette période, par rapport à comment j'étais avec Michel, c'est quelque chose dont on va se servir tous les deux. C'est-à-dire que ça fera un équilibre en tout ce que je vais tenter de ne pas raconter, alors qu'elle est au courant, puisqu'elle a vécu cette période, et tout ce que elle, son œil critique sur cette période, va servir à la construction du film. C'est comme ça qu'on a travaillé.
Oui, parce que justement, toute la question était d'échapper à la complaisance, y compris simplement la pure et simple complaisance sentimentale. Or, c'est tout sauf un film sentimental. C'est un film juste, un film serré, c'est un film vif.
Non, mais même. Mais pas sentimental.
Oui, j'entends. Non, mais le sentimental. Le sentimentalisme, c'est le contraire du sentiment. Justement, le sentimentalisme tue le sentiment. C'est-à-dire que je ne dis pas que c'est un film. On est contraire, au contraire, on est saisi d'émotion devant le film, mais jamais de cette émotion lourde et bête qui est le sentimental. Mmh. On est toujours dans le sentiment des choses, donc dans la justesse. Alors, est-ce que. Bon, peut-être pour ça que vous avez du mal à en parler, ça vient peut-être en partie de vous, d'après ce que je comprends de ce que dit...
Tout à fait, oui.
Je ne me rappelle plus. Non, c'est-à-dire que moi, de toute façon, cette période-là, bon, je ne l'ai pas vécue de la même façon, mais j'en connaissais les ficelles. Mais en gros, je crois qu'on était quand même d'accord sur...
Sur le bilan, oui.
Sur le bilan, ce n'est pas vraiment un bilan, parce qu'il n'y a pas de conclusion dans ce film. Il y a que la voix de Romain, mais c'est pas univoque. Il n'y a pas de ligne directrice, il n'y a pas d'affirmation théorique, il n'y a pas d'idéologie. Et justement, je trouve que c'est ça qui est bien, quoi. C'est-à-dire que à chaque fois, ça peut aller dans plusieurs directions en même temps. Ça laisse une liberté. C'est pas de l'interprétation, ça laisse toujours un éventail de. Enfin, dans ce qu'il dit et dans ce qu'on voit. Enfin.
Il y a un jeu.
Il y a un jeu, c'est pas flou, c'est pas vague, mais c'est pas... On n'impose rien, j'ai l'impression. Je sais pas de quoi ça vient de la façon dont on a travaillé.
Excusez-moi, mais vous avez sacrément bien travaillé sur la bande-son, en tout cas, parce que la bande-son est étonnante. De richesse, aux images qui sont en elles-mêmes étonnantes, il y a une vivacité dans l'intervention des bruits, des musiques, des commentaires, du ton même du commentaire, des voix...
On avait une liberté de toute façon par rapport à la bande-son, c'est-à-dire qu'on n'avait pratiquement pas de son synchrone. Alors justement, ça nous a évité de coller toujours à l'image. Et on a essayer de pas illustrer, de rester toujours, de rajouter toujours quelque chose. Mais enfin, je crois que c'est toujours comme ça qu'on fait les bandes son.
Ah non, mais bah, non, on se trompe quelquefois, croyez-moi. Donc, non, là, mais au fond.
D'avoir toujours une cassure qui fait que la bande son apporte quelque chose d'autre, qui fait décoller par rapport à l'image.
Alors Romain Gopi, finalement, le fait de ne pas avoir de son synchrone, qui est généralement assez triste, puisque finalement on est tous plus ou moins amoureux du son synchrone, là ça a été un avantage, ça vous a contraint à l'invention.
Tout à fait, c'est-à-dire que c'était une contrainte par rapport aux images qu'on voyait, où j'avais envie de raconter, voyez ce que cette image veut dire, en dessous de l'image des personnages qui y sont. Voilà toute l'histoire de cette image, et effectivement, le son ou la musique venant en décalage, même par rapport à ce que je pouvais raconter ou à ce que l'image pouvait dire, pour qu'il y ait effectivement cette cassure, comme l'expliquait François, qu'on passe à un autre stade. C'est-à-dire, l'idée, c'était, je parle à la première personne, je raconte moi, donc je peux me permettre de critiquer certaines images, ou je peux en parler, j'y étais. Je parle, je vous raconte, vous avez les dates, vous avez les événements, tout le monde sait ce qui s'est passé à telle et telle date. Moi, j'en parle à la première personne, mais du coup, ça laisse complètement ouvert le film, c'est-à-dire que tout le monde peut prendre des points de repère. Ah, voilà ce qu'il pensait lui. C'est pas du tout un film objectif, c'est un film subjectif, mais même plus que subjectif. Dire, et on sait très bien, on a Romain Goupil, à cette époque, pensait ça par rapport à tel événement. Et du coup, ça donne un tel point de repère ou tellement de notation que nous, spectateurs, enfin, même moi, quand je me place comme spectateur, je me dis, tiens, il vivait cet événement à ce moment-là de cette manière. Donc, on peut, nous, le vivre autrement, c'est-à-dire se poser des questions, ça reste complètement ouvert. L'idée, ce n'était pas de donner de solution finale, d'explication, surtout pas sur le suicide de cet ami qui a laissé aucune lettre, qui donc a décidé de se suicider, pas de dire c'est cet élément plus ou cet élément. Voilà, on vous donne tous les éléments de l'histoire, à vous de juger, d'en faire, de construire un petit peu votre propre film.
Bon, alors moi, j'ai construit mon propre film, d'une part, en partant du début, enfin, en partant de la bande des Coyotes et de vos films, et de l'invention étonnante, d'ailleurs, parce qu'à 12 ans, on a tous les courages, et même toutes les adresses, parce que, du point de vue des gags, les gags de vos films sur les Coyotes sont tout à fait étonnants, et tout à fait même dignes de l'esprit de Max Sennett, etc. Et puis, bon, il s'agit de quelque chose qui est comique, il s'agit de quelque chose qui est gai, et il me semble que cette gaieté-là, c'est la vraie fidélité. Je veux dire que vous êtes quelqu'un qui... cette gaieté-là, il me semble qu'elle est permanente chez vous jusqu'à aujourd'hui.
C'est-à-dire qu'à travers le cinéma et puis les images, la façon de traiter les images, c'est ce qu'on voulait conserver quand même. C'est-à-dire pour éviter de faire de cette histoire quelque chose de dramatique, ce que ça est déjà en soi, c'est suffisamment dramatique pour pouvoir se permettre de se rappeler le regard qu'on avait à l'époque, comment on se moquait de nous-mêmes, ou comment on se moquait pas, comment on se prenait trop au sérieux à certaines périodes, de répéter les discours ou même de rien dire, de montrer les discours quels qu'ils étaient, et ça suffit effectivement pour avoir un regard un petit peu ironique, un petit peu comique sur comment on fonctionnait, quels étaient, on se prenait pour des petits dieux, c'est-à-dire on avait la parole juste, c'est nous qui allions changer le monde, c'est quand même pas rien quoi, on allait changer le monde, on allait faire la révolution en France, et c'est nous qui étions les dirigeants de cette organisation qui était l'avant-garde de l'avant-garde. C'est nous qui allions donner des leçons à la classe ouvrière. C'était pas rien quand même de penser ça à cette époque, à notre âge. Et du coup, maintenant qu'on regarde ces discours, ces événements...
Surtout que vous étiez, c'était les lycéens, c'était même pas les étudiants.
Oui, non, on était, c'était vraiment deux mômes, pour en ce qui me concerne, Michel et moi, qui allions refaire le monde, sur la base de ce qu'on pensait être juste. On avait des solutions pour tout. À l'époque, vous pouviez me poser une question sur n'importe quoi, n'importe quel sujet, de la science en passant par l'astronomie ou la cuisine, j'avais une réponse marxiste, absolument tous les problèmes.
Vous avez connu Romain Gopi à cette époque-là, oh, Françoise Prenant?
J'étais lycéenne aussi, en 68. C'était mon chef. Et c'était mon chef, oui. Je ne les aimais pas beaucoup. Moi, j'étais plutôt... j'ai été assez peu de temps, j'étais maoïste. Et assez peu de temps, j'ai arrêté assez vite. Et puis, eux, ils ont continué, et... Moi, j'ai complètement laissé tomber le gauchisme.
Et vous ne les aimiez pas beaucoup, pourquoi?
C'était les chefs, ils étaient autoritaires. Autoritaires, oui, c'est ça, durs, un peu méprisants avec les masses. Mais on se connaissait par ailleurs aussi, de toute façon. Enfin, on se connaissait pas seulement de la politique.
Non, mais est-ce que vous y arriviez, est-ce que vous lui disiez ça, qu'il était autoritaire?
À l'époque, non. Enfin, on le disait dans leurs dos, évidemment. Mais...
Si, il y a eu quelques discussions, quelques engueulades très très sévères quand
c'est
même, petit à petit.
C'est venu après, c'est venu en 69. En 68, encore, on se plaignait pas de l'autorité. elle était naissante.
Ce qui me frappe beaucoup, alors, en voyant le film, parce que moi, je sais pas, j'ai une espèce de passion morbide, littéralement, pour la politique, un peu comme ça m'intéresse, je dirais, comme jeu, enfin, en tout cas, et comme jeu mental. Et alors, il y a des choses dont on comprend pas quand on s'intéresse à l'histoire. C'est-à-dire qu'on comprend pas comment les soviets, enfin, les communistes du début, qui paraissaient sacrés, jeunes, beaux, Eisenstein, Mayakovsky, etc., ont pu devenir les monstres qu'on sait à partir de 1936 avec les premières purges et comment Staline n'a fait que croître et embellir jusqu'à sa mort. Dans le même genre. Or, ce qu'il y a de saisissant chez vous, c'est que dans votre film, c'est que alors, de ce point de vue-là, vous ne vous épargnez pas, il y a en raccourci une histoire de pouvoir tout à fait saisissante où vous vous arrangez pour que Michel Arganati représente les lycéens et pour qu'il y ait sur la photo Arganati à côté des grands leaders de mai 68, comment lui-même a éliminé un rival qu'il n'aimait pas pour des raisons probablement personnelles et comment c'est fantastique de penser que ces jeux de pouvoir pouvaient être si précocement vif et violent, finalement. Vous vous en amusez dans votre commentaire, mais c'est assez saisissant, parce que là, on comprend soudain comment les choses se passent.
Ah oui, c'est ça. À l'époque, on s'en amusait pas tellement. Ça avait des conséquences humaines relativement dramatiques dans des règlements de compte en cellule, en réunion, entre nous, pour éliminer l'un au profit de l'autre. Et nous, je le dis un moment dans le film, on le comprend pas parce que ça passe très très vite, on était deux. Michel et moi, on était copains. Dans ce qu'est le militantisme, il n'y a pas de copains. C'est vraiment une lutte de pouvoir intense à partir du moment où on est à la direction et on n'a pas d'alliés. À aucun moment, on doit se méfier sans arrêt de droite, de gauche, même si on est dans la même organisation, même encore plus si on est dans la même organisation. Moi, j'avais une espèce d'association fantastique avec Michel. Et on a toujours été tous les deux, on a toujours fait front tous les deux dans la lutte politique. Donc c'était un avantage fantastique sur les autres, ce qui nous a permis de mener notre propre destiné comme on le voulait, c'est-à-dire qu'on a manipulé un petit peu les événements pour s'arranger pour que lui arrive au bureau politique, pour que moi j'occupe la place que j'occupais comme cinéaste militant, m'occupant aussi du service d'ordre et des choses qui m'amusaient, m'intéressaient, mais on s'est partagé le travail, ce qui se passait pas pour les autres. On était beaucoup plus fort que tout le monde puisqu'on était nous deux à réfléchir, à penser, à agir et à voter, c'est-à-dire qu'on avait dans des organismes différents ou hiérarchiquement différents, on avait la même politique, ce qui est quasiment impossible ou très très rare. Et dans la façon dont on a pratiqué, dans la façon dont on a avancé dans l'organisation politique, on était vraiment la troisième génération. On se vivait comme la troisième génération des militants bolcheviques, directement héritiers de 1917-1905. Et à partir de ce moment-là, on remettait en place, on reconstruisait le parti bolchevique en France. Et on voit, c'est pour ça qu'on sent et qu'on voit un petit peu, qu'on retrouve le même enthousiasme du début et les mêmes déviations à la fin. C'est-à-dire l'appétit de puissance, l'appétit de pouvoir, l'élimination des autres, et petit à petit, comment la machine militante broie les individus au profit d'une idée. Et comment les individus se mettent
Non, mais d'accord, mais c'est presque trop beau, Romain Gopi, parce que c'est presque trop beau, parce que ce qui s'est fait dans le temps avec les soviets de 1905 à 1954, ce qui s'est fait dans le temps semble se faire pour vous en 2 ans, en 3 ans.
Oui, c'est en raccourci, oui. C'est en raccourci un petit peu, tout s'est passé très très vite. Mais il faut dire qu'on avait la connaissance. C'était pas quelque chose de caché pour nous, ce qu'était le goulag, ce qu'était les déviations staliniennes, ce qu'était la bureaucratisation d'une organisation, c'est des choses qu'on savait. Donc tout a été très très vite. Même la façon de vivre de manière critique, notre pratique militante, notre pratique quotidienne, ça a été très très vite parce qu'on avait ce savoir. Donc ça raccourci un petit peu, toutes les étapes ont été un an vaut 10 ans à peu près.
Oui, d'accord, mais alors est-ce que ce sont vraiment les mêmes étapes? Est-ce qu'il n'y a pas eu de votre part aussi l'idée d'une sorte de, après tout à l'époque, le living theater, enfin cette forme de Oui, avec cette forme de happening, est-ce qu'il n'y avait pas de votre part aussi quelque chose de l'ordre du happening?
Ah, pas du tout. C'était quelque chose de planifié, d'organisé. On avait des textes, on avait des références historiques qui dataient de dizaines et dizaines d'années. On avait une pratique qui était l'insurrection. L'insurrection devait nous mener au pouvoir. Et du pouvoir, c'est nous, puisqu'on avait le savoir et qu'avions déclenché l'insurrection, qui récoltions l'organisation du pouvoir, donc les postes dirigeants. Et si vous ne me croyez pas, ben, imaginez, faites un effort, mourir à 30 ans, poussez-le un peu plus loin. Admettons que 68 est réussi, et voyez un petit peu ce qu'étaient ces militants. Et moi, bien sûr, je me place en premier rang au ministère de l'Intérieur ou au ministère de la Culture. Imaginez un petit peu ce qu'étions Michel Recanati et moi-même, Romain Goupil, à des postes de responsabilité ou de direction. Mais c'était l'horreur, l'horreur absolue. La tyrannie.
Bon, ouais. Alors, vous avez parlé de votre amitié avec Michel Recanati. Or, là encore, en dehors du fait que c'est une tragédie, vous recoupez alors quelque chose de très très ancien et de très fondamental en chacun d'entre nous, et qui est le dialogue à travers le temps, mais dans notre vie aussi bien que dans les fictions, entre la comédie et la tragédie. C'est-à-dire entre un point de vue qui est le vôtre, qui est celui de la comédie. C'est-à-dire qu'il consiste à... Enfin, attention, la comédie au sens noble, il ne s'agit pas de rire, il s'agit de regarder. Hein, il s'agit simplement... Le point de vue de la comédie, c'est le point de vue de quelqu'un qui regarde, qui observe, et qui, de ce fait, ne peut que faire rire, puisqu'au bout du compte, dès qu'on regarde, on ne peut que découvrir des ridicules. Bon. Et lui, il incarne la tragédie. Or, on sait à quel point les personnages de tragédie et les personnages de comédie sont fondamentalement liés, puisque on le voit bien à travers toutes les grandes fictions, que ce soit les Contes de la Lune Vague après la pluie, où il y a le héros en principe tragique qui est celui qui va affronter la mort sous l'apparence d'une princesse fantôme, et celui qui désire, enfin le matamore, qui lui alors n'est pas l'auteur, mais qui est le personnage de la comédie. À quel point dans toutes les grandes fictions, enfin que ce soit Don Quichotte et Sancho Panza, que ce soit Don Juan et Sganarelle, que ce soit Charlie Chaplin par rapport à lui-même, tout compte fait, puisque lui-même joue les deux. Votre histoire, est-ce que vous l'avez pensé en ces termes-là? Parce que c'est tout à fait...
Ça serait vraiment très, très malhonnête de dire que ça a été construit ou réfléchi.
Non, bien sûr que non.
Après coup, c'est le travail vraiment de précision du montage avec François. Ça, c'est vraiment le travail, une fois qu'on a mis le bout à bout des images. Et là, effectivement, le sentiment dans l'équilibre des séquences, dans l'équilibre de la musique, dans l'équilibre du montage, l'envie, effectivement, que passe cette aventure, donc qu'elle soit compréhensible, qu'on se lasse pas des images que nous considérions comme assez pauvres, quand même, malgré ce que vous en dites ou comment vous les avez vues. Nous, on considérait que c'était un matériel très, très pauvre. Donc, l'envie de pas ennuyer avec une histoire que tout le monde connaissait. Donc là, il y a eu un travail, effectivement, de mise en scène et de montage par rapport à cette histoire, un travail sur le matériel. Mais au moment où on a mis le matériel brut bout à bout, il n'y avait aucune conception générale, aucun plan, aucune organisation du travail.
Non, c'est pas de ça que je parle. Mais vous me faites penser à autre chose, c'est-à-dire que et à ce que disait Françoise Prenant tout à l'heure, à savoir c'est évidemment de votre matériel, il y avait du matériel, vous l'avez d'ailleurs probablement classé comme ça, matériel de fiction, matériel documentaire. Mmh. Et vous dites pauvre, donc documentaire, c'est ça que ça veut dire. Hein? Donc, Et l'ensemble du film est un film de fiction maintenant.
Oui, c'est un film. Enfin, ce que vous disiez sur la comédie, la tragédie, c'est pas ce qu'on appelle le drame, le mélange des deux. Enfin, on a fait un mélange des genres, justement, mais qui était nécessaire pour que ce soit pas. Que ce soit simplement un film, quoi. Et autrement, non, quand on dit qu'on avait du matériel pauvre, moi je considère que c'est riche parce qu'il est extrêmement divers, mais c'était pauvre au niveau d'image plutôt, c'est-à-dire que c'était souvent répétitif, tous les trucs politiques, c'est toujours la même chose puisque c'est le principe du cinéma militant, et on trouvait ça pauvre au niveau de ce qu'on voit, pas au niveau de ce que sont les documents. C'est-à-dire que les documents, on a énormément de diverses sortes. On a des fictions qui reconstituent la réalité, des faux reportages, des vrais reportages, des interviews, des photos, des petits trucs qu'on a filmés après en Super 8, là maintenant. Enfin, il y a énormément de choses. Mais quand on dit que l'image était pauvre, c'était plutôt que... Elle brillait pas, c'est pas une image brillante, quoi, ça.
Oui, mais plutôt... ce qui est étonnant, c'est que quand on voit le film maintenant, on va dire après votre travail... On a un sentiment de... C'est pour ça que je parle des grandes fictions. C'est parce qu'on est dans la fiction jusqu'au cou.
Ah oui, c'est une histoire.
Et on se trouve devant les images de Recanati. Alors là, moi, je vous donne mon sentiment, parce que moi, je ne l'ai pas du tout connu. Dans un sentiment qui n'est jamais de l'ordre de la pitié, ou de la, même de la compassion. Parce qu'il est tellement beau comme personnage. Il y a une telle logique dans la façon dont il va droit vers un impossible, va droit vers un réel qui se bouche, qui ne correspond absolument pas à ce qu'il croyait être cette réalité-là.
Oui, mais alors là, il y a quelque chose de magique. Là, ce que vous me décrivez, c'est le film tel que vous le voyez, vous, spectateur, avec tout ce que vous pouvez retrouver comme émotion ou moment de cinéma. C'est quelque chose qui vient du travail. C'est pas quelque chose qu'on peut... Bien sûr, on le rêve, on le pense comme metteur en scène, comme réalisateur. Mais alors, si la magie a fonctionné, c'est probablement que c'était quelque chose qui me touchait, qu'on sent que dans la façon dont je raconte l'histoire, c'est quelque chose qui est très très fort dans ce que je raconte comme période, cette histoire avec ce copain. Ça, c'est si ça passe, si ce moment de cinéma passe, c'est dû à la magie du travail et puis la façon de raconter les histoires. Ça, c'est quelque chose qu'on peut pas. Je pense pas qu'on l'ait décortiqué ou analysé avant. Il y a quand même quelque chose, une alchimie qui s'est fait à la fin du film, une fois tous ces éléments rassemblés et une fois cette histoire mise en forme. Alors maintenant, c'est vous qui pouvez parler de votre point de vue de spectateur, mais moi, je peux difficilement, alors là, en parler au point de vue du metteur en scène.
D'accord, mais alors, j'ai envie de revenir complètement, de revenir au départ. Comment est-ce que vous, parce que le film là-dessus reste très ouvert, c'est une question. Votre amitié entre des personnages très aussi différents que vous et Michel Recanati, comment se fait-il que cette amitié, enfin est-ce que vous, je suppose que vous continuez à vous poser la question, comment se fait-il que vous y ayez été tellement amis, toute question mise à part, politique.
Je pense que le fait qu'on était très très différents l'un de l'autre. Et ça, on en discutait même entre nous. C'est-à-dire que non seulement ça surprenait les autres, notre amitié, mais même nous, à des moments, nous retrouver en vacances ensemble, de sortir ensemble, enfin de se voir assez souvent. C'est vrai qu'on se posait le problème, on se disait tiens, c'est rigolo, pourquoi par rapport à un tel et un tel, pourquoi on se raconte ces histoires, des choses qu'on confie pas. Je crois que la politique a joué un très très grand rôle. Le fait qu'on savait qu'on pouvait faire confiance l'un à l'autre, du coup, ça renforçait incroyablement notre amitié. Et on s'est confié une série de secrets, sur notre vie quotidienne, qui renforçait un peu le pacte au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'on se prenait sans arrêt, on se disait un secret de plus ou une confidence de plus pour voir si on n'allait pas être trahi par l'autre. Et petit à petit, comme ça fonctionnait comme ça et ça s'est renforcé, je crois, au fur et à mesure, autour de ce pacte, autour de la façon dont on s'est organisé tous les deux par rapport à la politique.
Romain Goupil, j'allais oublier tout de même de vous parler de quelque chose qui m'a paru très fort du point de vue de la composition et du point de vue simplement de l'intelligence par rapport au sujet. C'est d'une part qu'il y a des interventions actuelles, filmées en couleur, sous forme d'interventions de gens qui ont vécu et qui parlent de ces événements, qui parlent de Michel Recanati, qui parlent de ce que vous étiez, etc. Mais il y a un très très bon dosage de leur intervention, d'une part, et d'autre part, dans l'équilibre général du film. C'est-à-dire qu'il y en a vraiment juste ce qu'il faut.
Oui, ça vient vraiment du travail de montage et de la vision du bout à bout, parce qu'au début... Une série des écueils dont on parlait au tout début de l'émission, c'est-à-dire ce copain qui s'est suicidé, la mort, la façon dont que ça soit pas larmoyant. Enfin, il y avait vraiment une série d'écueils à surmonter, à dépasser. Et je savais pas du tout si j'étais capable de faire ça. Il y a eu ce bout à bout et le bout à bout durait 2h30. Et dans ces 2h30, il n'y a pas ce dosage. Il n'existe pas. Il y a beaucoup trop d'interviews. Il y a des manifestations, des reportages militants qui sont beaucoup trop longs. Il y a des choses qui sont mal équilibrées, justement. Donc ça vient vraiment d'une vision de l'ensemble. C'est-à-dire à partir de quel moment j'ai eu cette vision d'ensemble? Pas au début, puisqu'on a fonctionné image par image, c'est-à-dire un petit peu comme page blanche après page blanche, hein, écrire le film. j'en avais les moyens, puisque j'avais aucun moyen, et j'avais Françou qui avait accepté ce pari, de faire image par image, sans plan, sans construction.
Le montage avait une durée prédéterminée?
Pas du tout. Ça. C'était justement ça le pari fantastique de la part d'un technicien de cinéma qui ne sont pas prêts à faire et qui ne fonctionnent pas du tout comme ça, ce qui est vraiment un piège pour le cinéma, pour les cinéastes, pour les metteurs en scène. Et on doit faire le film en 7 semaines, ça répond à un tel budget, ça répond à des stop-dates par rapport aux acteurs et tout, et donc on en arrive à une espèce de produit stéréotypé. Pour ce film, j'avais besoin du temps. Plus besoin d'argent, il n'y en avait pas de toute façon. Donc là, c'était un pari à prendre avec elle et puis ensemble avec le producteur. On fonctionnait avec les documents et on voyait ce que ça donnait. À partir de quel moment j'ai eu donc cette vision d'ensemble? À partir du moment où j'ai vu le bout à bout, où j'ai pu me rendre compte, bobine après bobine, de ce que donnait l'ensemble du film. Et là, je me suis aperçu de ces écueils. Mais pas tellement avant, pas tellement par la réflexion, pas tellement théoriquement. C'est uniquement pratiquement en voyant les images et en réfléchissant, alors là, en me reculant, c'est-à-dire par rapport à ce que je racontais, par rapport à l'histoire, par rapport à ce que je voulais raconter comme histoire, qui était cette aventure prodigieuse avec Michel. On me dit souvent, mais à la fin, on a envie d'en savoir plus sur Michel, on a envie de savoir la période. Je dis oui, si vous avez envie, tant mieux, mais quelque part, moi, j'ai arrêté vraiment exprès, c'est-à-dire pour moi, 73-65, c'est notre aventure fabuleuse. Après, c'est là comment un individu s'est perdu lui-même dans tous ses problèmes personnels.
C'est
contenu dans ce que j'explique avant. De toute façon, c'est intégré un petit peu aux explications que je donne dans le film, au cours du film, tout au long du film. Mais cette vision d'ensemble, j'ai pu l'avoir qu'à ce moment-là, qu'au moment du bout à bout, vu la façon dont on a fonctionné sur le film. Il n'y avait pas de scénario. Je ne pouvais pas écrire de scénario, de même que je ne pouvais pas imaginer quelqu'un jouant le rôle de Michel. C'était pour moi inimaginable de prendre un comédien et lui dire, voilà, tu vas me réciter tel texte ou tu vas jouer telle séquence. Il pouvait pas prendre de visage, ça pouvait être que lui ou rien.
Non mais c'est étonnant, mais alors là il y a une chose qui joue terriblement. Depuis que j'ai vu sa photographie dans Libération, parce que je savais vaguement qui c'était, mais quand j'ai vu sa photo dans Libération, j'étais frappé par sa beauté. C'est pas seulement le fait qu'il soit beau garçon, c'est qu'en plus il a une beauté d'être, enfin une beauté de...
Là il y a quelque chose qui est assez comique que je voulais mettre dans le film et qu'on n'a pas fait. Il y avait avant de partir dans les surprises parties, dans les booms, à l'époque on se déguisait en militant et lui avec une photo de Lénine jeune à côté de lui, blouson de cuir, casquette, organisait un petit peu sa silhouette comme celle de Lénine jeune, des photos qui ressemblent d'ailleurs énormément. Et moi, dans une glace, chez mes parents, c'était une armoire à glace avec deux miroirs, j'étais avec une photo du Che et je commençais à mettre une veste en velours, des patogas, enfin je m'organisais un petit peu ma silhouette comme le Che. Et c'était vraiment rigolo de nous voir tous les deux mômes partir pour séduire, donc à l'extérieur, et les militantes et les autres, de se donner une silhouette comme ça de héros révolutionnaires, de héros romantiques, on se mettait à leur image un peu.
Oui, bon, alors ça, c'est tout à fait passionnant, parce qu'en même temps, ce que vous racontez, j'ai l'impression aussi que vous n'auriez pas pu le raconter ni plus tard ni plus tôt. Bon, alors, c'est pour ça que Mourir à 30 ans ne me paraît pas du tout un film ni rétro, ni nostalgique, ni d'aucune façon. Il me semble que c'est un film qui parle pour une... Enfin, je comprends votre génération, c'est-à-dire que... Mais je la comprends aujourd'hui. Je la comprends aujourd'hui, donc je peux comprendre ce qui s'est passé avant. C'est parce qu'aujourd'hui est très fort. Alors, moi, je voudrais savoir, c'est une espèce de curiosité là encore un peu morbide, est-ce que vous avez le sentiment que c'est parce qu'il y a quelque chose qui s'est pacifié dans la politique française, peut-être même dans la politique internationale? Est-ce qu'on est en train de traverser, je ne sais trop comment d'ailleurs, enfin peut-être parce qu'il n'y a pas de Vietnam, parce qu'il n'y a pas de choses aussi violentes encore qu'il y a le Liban, enfin, mais comment, est-ce que c'est parce qu'on est dans un creux de vague politique et que vous pouvez être repris par une marée qui vous amènera vers de nouvelles aventures et de nouveaux engagements, de nouvelles passions politiques? Ou bien est-ce que votre génération avait besoin d'en passer par là, c'est-à-dire par le militantisme, par cette fantastique cohésion, par ces 15 heures par jour passées à faire quelque chose? Alors on sait que quand on passe 15 heures par jour à faire quelque chose, fût-ce du militantisme, c'est la meilleure des universités. Non ?
Oui, tout à fait. C'est-à-dire que la façon, l'engagement qu'on avait à l'époque, je pense qu'on ne pouvait pas le contourner. Comme on était au lycée, comme on s'est rencontrés, comme j'ai rencontré les autres copains qui parlent dans le film, c'était quelque chose d'obligatoire, d'inscrit quelque part. J'ai vraiment cette impression maintenant à voir notre histoire telle qu'elle s'est déroulée. Maintenant, je pense que le regard critique, c'est-à-dire la critique de comment on a fonctionné, elle était valable pour Michel à partir de 73-74, elle était valable dans nos discussions en 75-76, elle était valable pour toute cette génération. C'est-à-dire que tout d'un coup, on a eu l'impression de s'être trompé complètement dans les méthodes, dans les moyens. Et du coup, ça devient une période ouverte. Alors pour l'instant, on a l'impression qu'il ne se passe rien, mais j'ai plutôt l'impression que dans ce rien va émerger effectivement une autre forme de prise de conscience. Enfin, c'est ce que j'espère quand même intimement, puisque je ne me désintéresse pas du tout des problèmes politiques. J'espère qu'il va surgir d'autres formes, c'est-à-dire des choses qui remettent en cause la puissance d'un chef, le pouvoir, la puissance, quelque chose qui fait confiance aux individus pour organiser ou gérer leur propre vie. Ça, c'est quelque chose que j'espère. Donc, j'ai l'impression que c'est plus une période qu'effectivement, on devait en passer par là, que la critique de ce moment était inscrite un petit peu dans la façon dont on a milité, avec les références qu'on avait, puis la culture en général de l'ensemble de ces militants, que c'est la critique était contenue un petit peu dans la façon dont on fonctionnait, ça devait s'arrêter un moment. Et que maintenant, le regard qu'on a, je ne suis pas le seul, c'est peut-être ce qui explique la façon dont le film a été accueilli, dont les gens vont le voir et retrouvent leur propre histoire. J'ai l'impression de ne pas être le seul à avoir fait ce chemin.
Bon, alors, moi, je vous donne mon point de vue de type qui va vers la cinquantaine et qui vous regarde et qui a vu votre film et qui vous écoute, etc., et qui connaît un certain nombre de gens de votre génération. Moi, mon idée, c'est que, d'une part, ça n'a pas du tout été vain, mais que ce que vous disiez théoriquement était complètement en contradiction avec ce que par ailleurs, la vraie révolution qui était à l'œuvre, qui était une révolution, qui était une crise et qui était meurtrière, et qui était une crise de la relation humaine, dont on a bien vu que le vrai sens de mai, d'ailleurs c'est drôle parce que vous en parlez à un moment et ça m'a terriblement frappé, la convivialité, tout ça, vous ne saviez pas ce que c'était. Alors que pour nous, les passants de mai 68, ce qui nous a terriblement frappé, c'est l'envie prodigieuse que les gens avaient de se dire, fût-ce des conneries, mais de se les dire. Bon, alors, et c'est le manque fantastique aujourd'hui, et toute question idéologique mise à part, ou politique mise à part, il est bien là. On a bien cette crise de la relation humaine qui est encore vraie pour la majorité des gens, elle commence à l'être moins pour vous. C'est-à-dire, c'est étrange, c'était ou bien en mourir, ou bien retrouver avec autrui quelque chose qui est de l'ordre d'une relation possible.
Tout à fait. J'ai tout à fait cette impression que ma rupture avec l'organisation, ça a été pour me mettre à l'écoute des différences, à l'écoute des autres. Et principalement, ce qui a fait ma rupture avec le militantisme, c'est la fracture avec les femmes, c'est-à-dire le mouvement des femmes et l'interpellation dans ma propre vie quotidienne avec la copine avec qui je vivais, qui m'a commencé à m'expliquer ça très très violemment à l'époque. Regarde ton discours, regarde ton attitude. Tu te dis que t'es un militant révolutionnaire, t'as un discours révolutionnaire, mais regarde ta pratique quotidienne. On parle pas, on dit rien, on a une vie imbécile. Donc j'ai commencé à me questionner sur la façon dont je vivais au jour le jour. Et à partir de cet instant-là, toute une autre série de questions sont venues, c'est-à-dire ont émergé, et j'ai eu envie de connaître, de revoir, de savoir, de m'ouvrir sur l'extérieur, au lieu de m'enfermer dans cette pratique militante. Et ça, j'ai l'impression, et effectivement, j'espère que chez les jeunes, enfin la façon dont ils vivent, dans la façon dont ils choisissent leur boulot ou choisissent ce qu'ils ont envie de faire, il y a cette envie de liberté. J'espère qu'elle existe et que c'est quelque chose qu'on va retrouver maintenant.
En tout cas, le succès de votre film aujourd'hui laisse entendre qu'il trouve dans votre film, au-delà de mai 68, au-delà de votre histoire à vous, quelque chose qui les touche personnellement, puisque les salles ne désemplissent pas où le film passe, ce sont des petites salles, mais elles ne désemplissent pas, ce qui indique bien que vous avez rencontré, il n'y a pas de vedette, il n'y a pas de choses connues, ça peut avoir comme ça les apparences d'un documentaire pour ceux qui s'informent d'une manière un peu paresseuse, donc c'est extraordinaire l'instinct des spectateurs qui savent qu'ils vont aller trouver là une nourriture qui leur convient. Or, cette nourriture, elle vaut beaucoup plus pour aujourd'hui encore que pour mai 68. C'est ce qui fait probablement la force de votre film, puisque ce qu'on vous souhaite, c'est d'en faire un autre très vite. Et dans l'esprit des films que vous faisiez quand vous aviez 12 ans, puisque c'est l'envie qu'on a tous en ayant regardé vos films. Bon alors, Pierre Donadieu, pour la suite des événements, nous ne savons pas quels seront les sujets des prochaines émissions.
On peut garantir que ce sera des émissions qu'on veut intéressantes, avec des gens qu'on a contacté, dont on attend des réponses. Et on ne peut pas encore dire parce qu'on n'a pas encore la réponse définitive.
Bon, d'accord.
Donc, nous engageons pas.
Alors, je ne sais pas si ça va. On recule le bilan, puisqu'il ne s'agit pas de bilan. Il s'agit d'un film qui est sur les affiches. Alors, bon, nous continuons à dire que les films qui nous passionnent s'intitulent Passion. La femme d'à côté, s'il est encore à l'affiche. Le beau mariage. Il est encore à l'affiche ?
Oui.
Le beau mariage. Et aujourd'hui. Mourir à 30 ans, de Romain Goupil.
Et puis les très nombreuses reprises de l'été, qui sont des films souvent rares qu'on n'avait pas eu depuis longtemps.
Ça, on n'a pas besoin de demander à nos auditeurs de les regarder, je crois qu'ils y vont de même.
C'était Le cinéma des cinéastes par Claude Jean-Philippe, qui, en compagnie de Pierre Donadieu, recevait Romain Goupil, réalisateur, et Françoise Prenant, monteuse, pour le film Mourir à 30 ans. Première diffusion sur France Culture le 11 juillet 1982. Vous pourrez réécouter cette émission en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.